Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Carnet de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc Roussillon. Jusqu'à la fin du mois de février, c'est Radio Pays d'Hérault qui aura le plaisir d'en assurer la rédaction. Au sommaire, cette semaine, nous irons tout d'abord en Lozère avec 48 FM dans un centre d'accueil de migrants qui viennent de Calais pour essayer de se reconstruire. Radio Escapade nous emmènera au Vigan, dans le Gard, où les inquiétudes ne cessent de croître chez les parents d'élèves après la réforme du collège voulue par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Et nous partirons ensuite dans un collège montpelliérain en quête de mixité sociale en compagnie de RCF Maglon. Avec Radio Grille Ouverte, nous parlerons de la signature d'un accord de coopération entre le Maroc et la ville d'Alès. Nous referons un crochet par la Lozère avec Radio Bartas pour rencontrer l'association Cévennes Écotourisme basée à Florac. Enfin, cette semaine avec Radio Aviva, on prépare la prochaine édition de la Comédie du Livre qui aura lieu en mai. Voilà pour le sommaire, vous écoutez le Carnet de Région.
Carnet de Région, l'actualité en langue de Roussillon.
Depuis plus de 3 mois maintenant, des migrants arrivent de la jungle de Calais pour trouver de l'aide et du repos en Lozère. Ludovic Terrol de 48 FM s'est rendu sur place pour rencontrer migrants et bénévoles.
C'est au Moulin de la Farelle, près de Mende, que 20 migrants sont accueillis depuis plus de 3 mois maintenant pour tenter de se reconstruire. Fin octobre, le gouvernement avait lancé une enquête pour connaître sur le territoire national les structures capables et ayant la volonté de les accueillir. Une seule réponse est parvenue pour le département de la Lozère, celle de la Ligue de l'Enseignement, Fédération des œuvres laïques, qui a pu mettre à disposition le Moulin de la Farelle situé à Balsièges. Fin octobre, 10 Soudanais sont arrivés avant 4 Afghans, 6 Irakiens et un autre Soudanais la semaine dernière. La Ligue de l'Enseignement gère l'accueil, l'hébergement et la restauration. L'association La Traverse, les déplacements, l'aide sociale et administrative et d'autres associations interviennent, comme le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, sur l'apprentissage de la langue française ou encore le Secours populaire sur des ateliers sur la nutrition et la confection de repas économiques et équilibrés. Avec 25 € reversés par jour et par migrant pour l'hébergement, la restauration, les cours donnés, les quelques loisirs offerts, la notion de bénévolat est indispensable dans l'accueil de migrants. À Balsièges, Martine, enseignante, vient offrir de son temps sur des ateliers de langue française.
Once again, once more, right? Do you agree?
Yeah.
Well, look at the board, regardez le tableau.
On s'est proposé pour donner des cours de français. On vient soit seul, soit par deux, donner des cours. Et là, donc, c'est en place depuis quelque temps déjà. Ah ben, je viens, moi, pour continuer avec le groupe de Soudanais. Il y en a deux qui parlent bien anglais, donc on arrive à se comprendre quand le français ne... Voilà, quand on ne peut pas se comprendre avec le français. Et en fait, on peut de mieux en mieux se comprendre. Ils progressent très vite, ils sont très motivés. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas la même notion de l'heure qu'eux, mais par contre, ils progressent et c'est visible. Hein. Là, ça fait, on a commencé début janvier, on est mi-février et les progrès sont très nets. Hein. Ils sont très, très partants pour apprendre, ils sont toujours prêts, ils sont toujours contents. Vraiment, il n'y a pas de très bon état d'esprit. Hein. Ils en ont envie, ils sont motivés. Moi, je suis enseignante, si mes élèves avaient autant de motivation qu'eux, je serais ravie.
Et parmi les migrants, Hassane est soudanais. Il étudiait la psychologie avant de devoir fuir les tortures et exécutions par le pouvoir en place. Il n'a pas choisi de pays de destination, mais juste un endroit où on pourrait lui apporter de l'aide, ce qu'il a trouvé ici, en Lozère.
Je préfère un pays à d'autres comme ça. J'aime mon pays parce que j'ai besoin d'aide.
Par rapport à son installation dans un pays ou dans un autre, il explique qu'il n'a pas quitté le Soudan pour choisir un pays ou un autre, en fait. Il cherchait juste de l'aide. Cette aide-là, il semble l'avoir trouvée ici. Et en trouvant cette aide-là, il donne une anecdote de ses voyages entre le centre où il est hébergé jusqu'à Mende, où ils y vont souvent à vélo. Et quand ils y vont à vélo, un jour il s'était installé au soleil pour prendre le soleil avec son vélo et une personne avec une grosse voiture s'est arrêtée pour lui dire que son vélo avait un problème, apparemment je ne sais pas si c'était un pneu ou un déraillement, et pour l'aider, il lui proposait de le ramener chez lui. Et il trouve que humainement c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Il dit qu'il ne parle pas le français couramment encore, mais que dans 6 mois, il le parlera peut-être et qu'il a déjà acquis beaucoup de vocabulaire qui lui permet quand même de s'exprimer. Et il dit aussi qu'il a été ravi de l'accueil qu'il a eu ici, qu'il y a des personnes qui les ont transportées dans différents endroits de Lozère, et que son père lui a appris que quand on lui souriait une fois, il fallait qu'il sourie en retour 2 fois, chose qu'il fait ici avec plaisir. Et en gros, il dit merci aux personnes qui l'ont accueilli ici.
Thank you and thank you for all friends. Thank you.
Et c'est un vrai échange qui a eu lieu avec la population locale. Un repas confectionné par les migrants a été proposé lors d'une soirée avec des explications géopolitiques et sur l'histoire et la culture du Soudan. De nouveaux bénévoles viennent depuis rendre visite aux migrants et les accompagnent découvrir le département. Une navette est également mise à disposition pour leur permettre de se rendre à Mende, ville-préfecture de Lozère. Reste maintenant à connaître le modèle d'intégration qui va être proposé par le gouvernement. En attendant, selon les migrants que nous avons rencontrés sur place, cela aura été une parenthèse lozérienne plus qu'agréable au vu des conditions qu'ils ont connues à Calais et de leur histoire depuis le Soudan.
C'était un sujet de Ludovic Terol de 48 FM. La réforme du collège voulue par la ministre Najat Vallaud-Belkacem n'en finit pas de susciter débats et inquiétudes. Les parents d'élèves de la FCPE à la cité scolaire André Chanson du Vigan se mobilisaient mardi 9 février. Après un rassemblement devant l'établissement, ils se sont rendus en délégation à la sous-préfecture. Le président de la FCPE du Vigan, Robert Latapie.
On va aller à la sous-préfecture déposer une motion d'une part au rectorat, d'autre part à l'éducation nationale, avec une lettre d'accompagnement qui sera un peu différente pour le rectorat et l'éducation nationale, le ministère. Autant le rectorat, on va lui demander concrètement de nous redonner au moins les moyens de l'année dernière, c'est-à-dire la trentaine d'heures de dotation globale horaire qui a été supprimée cette année. Autant au niveau de l'éducation nationale, on va essayer d'amorcer le problème de fond, c'est-à-dire la sous-évaluation générale de la charge supplémentaire de travail que représente la réforme du collège pour les enseignants, à savoir le changement de tous les programmes de 6e en 3e, principalement ça, et aussi le fait d'être obligé de travailler en enseignement pratique interdisciplinaire, c'est-à-dire une autre façon d'approcher la pédagogie et l'enseignement dans les classes. Et ça n'a pas été du tout pris en compte dans le nombre d'heures prévues pour les enseignants. Donc c'est là-dessus qu'on va apporter par rapport au courrier de l'éducation nationale. Et sinon, pour le rectorat, eh bien, essentiellement, c'est le maintien au moins de la dotation de l'année dernière. On demande plus de moyens, c'est-à-dire les mêmes que l'année dernière. Ça semble raisonnable quand même.
L'association de parents d'élèves demande des moyens pour accompagner la réforme. Pour la cité scolaire du Vigan, elle souhaite le maintien de la dotation horaire pour l'ensemble des enseignements. Elle craint que la mise en place des nouveaux programmes pour les 4 niveaux du collège dès la rentrée 2016 induise une surcharge de travail pour les enseignants au détriment de la qualité de leur enseignement et de leur disponibilité auprès des élèves. Seulement 3 professeurs sont venus à la rencontre des parents d'élèves mobilisés. Parmi eux, Jean-Marc Perrier, enseignant en SGPA et syndiqué FSU, qui s'exprime à titre personnel.
Non, mais sans donner de chiffrage particulier, dire que cette réforme a besoin de moyens pour la mettre en place, surtout qu'il y a l'ambition de la mettre en place sur 4 années d'un coup, alors que d'habitude une réforme se met en place progressivement. Donc, tout simplement, des moyens pour cette réforme.
Au moins, on a un point de convergence entre professeurs et parents. On en a d'autres, hein.
Quand on dit qu'on est contre la réforme, on ne dit pas qu'on est contre toute réforme. On souhaitait vraiment un dialogue sérieux et objectif pour définir une réforme qui vraiment sera à la hauteur de ce qui nous était annoncé il y a quelques années, une refondation de l'école. Aujourd'hui, on sait très bien que la refondation de l'école, si on ne met pas le paquet sur les jeunes enfants dans le cadre de leurs apprentissages, on sait très bien qu'on aura des difficultés après dans le secondaire pour rétablir la situation. Pendant des années, on a mis à mal l'école élémentaire. Et en supprimant la majeure partie des aides qui étaient disponibles en termes d'enseignants, qui n'étaient pas face à une classe, mais qui étaient dans des réseaux d'aide, aujourd'hui, on a le fruit de ces suppressions de postes. malheureusement, et le collège se retrouve en difficulté. Mais avoir l'ambition de résoudre les problèmes que les élèves se traînent depuis quelques années avec une réforme qui n'apporte aucun moyen supplémentaire, oui, c'est une grande erreur, oui, tout à fait. Les objectifs et les intentions sont ailleurs. Pour les enseignants, c'est clair.
Surtout qu'on a une marge de progression quand même. Moi, je suis quand même frappé des deux tiers, seulement du deux tiers de réussite de collégiens. Dans leur cursus, en gros, il y en a un tiers qui sont envoyés soit en apprentissage, soit sur des voies de garage à la fin du cycle du collège, quoi. Ça fait quand même beaucoup et il y a moyen d'améliorer ça, quoi.
C'était un reportage de Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade. Toujours au chapitre de l'éducation, le collège Lascaz de Montpellier à la reconquête de la mixité sociale. Depuis quelques années, l'établissement souffre du manque de diversité. 95% des élèves sont d'origine marocaine, une situation qui lui vaut une réputation de collège ghetto. Le collège est boudé par de nombreux parents qui optent pour le privé ou contournent la carte scolaire. Lascaz pourrait accueillir 600 élèves mais n'en compte que 380. Une situation injustifiée selon la direction de l'établissement. Mais le mal est fait, il faut maintenant trouver des solutions pour redorer l'image de l'établissement. Reportage de Thomas Lauré de RCF Hérault.
Dans la cour du collège Lascaz, aucune agitation particulière. Une seule chose saute aux yeux, les visages métissés et souriants en nombre. Pour le directeur Robert Lenné, ce manque de diversité provient surtout de la désertion des familles de professions et catégories sociales supérieures.
Notre démarche aujourd'hui, c'est de reconquérir, je dirais, la mixité, hein, à travers justement ces PCS plus favorisés que ce que nous avons actuellement. Et je pense que tout le monde peut vivre ensemble sereinement parce que dans cet établissement, il n'y a pas de phénomène de violence.
Des accusations de violence qui ont contribué à la mauvaise réputation de l'établissement, mais qui sont loin de la réalité du terrain, selon Laurent Ramonexo, conseiller principal d'éducation.
C'était un établissement sûrement où il y a eu des gros conflits. Vraisemblablement, ça n'a jamais été aussi fort que la réputation le dit. Et surtout, moi, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, les enseignants ont été très mobilisés pour créer un cadre de vie à la fois cadrant et sécurisant. Et il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de bienveillance envers les élèves.
Des mesures dont Souleymane, élève de 3e, se dit satisfait, au point qu'il est prêt à recommander son école à tous les futurs collégiens.
S'ils veulent aller à Lascaz et qu'il y a des gens qui leur disent que c'est mauvais, il ne faut pas y aller, il ne faut pas les croire, puisque c'est que des bêtises, c'est juste des rumeurs.
Pour attirer plus d'élèves à la rentrée prochaine, de nouvelles options vont être mises en place, comme le théâtre ou encore le rugby, en partenariat avec le MHR.
Reportage de Thomas Lauré pour RCF Hérault. Et pour devenir plus attrayant, le collège proposera à la rentrée une filière anglo-américaine de la danse et un nouveau dispositif numérique.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
Fin janvier, une délégation d'acteurs économiques, institutionnels et culturels de l'arrondissement d'Alès dans le Gard se sont rendus au Maroc. Trois jours durant, cette délégation qui s'est rendue à Rabat, Kenitra et Casablanca a signé une série d'accords sur des axes de coopération en matière de développement économique et de coopération future en matière de formation et recherche. Mais dès cette visite, une convention de partenariat sur l'écomobilité et le développement durable a été signée à Kenitra entre le ministre marocain de l'équipement et du transport et le président d'Alès Agglomération, Max Roustan. Une signature qui fait suite à des contacts noués à Alès lors des rencontres internationales des véhicules écologiques de juillet 2015, comme le rappelle au micro de Radio Grille Ouverte Jalil Ben Abdillah, vice-président d'Alès Agglomération, délégué au développement économique et aux relations internationales.
Suite aux RIV, rencontres internationales des véhicules écologiques et économiques qu'on a faites à Alès en juillet dernier, on a eu une délégation marocaine qui était représentée, notamment celle du ministère de l'Environnement. Et à la suite de cela, donc les Marocains étaient très intéressés par le travail qui était fait par Alès Agglomération dans le développement de véhicules écologiques et électriques et par le modèle alésien autour du pôle mécanique. Donc on a commencé des discussions à l'issue de ces rives et on a été invité par les Marocains à la COP21. Qui était à Paris, parce que le pays qui va organiser la COP suivante, c'est le Maroc qui va organiser la COP22 en novembre prochain à Marrakech. Et donc, on a commencé notre travail de coopération sur l'écomobilité et sur l'usine du futur et la ville du futur.
De plus, Jalil Ben Abdillah a quelques connivences avec ce pays qui est sa terre d'origine.
Il se trouve que je suis effectivement d'origine marocaine, mais évidemment, c'est un facilitateur, c'est un atout supplémentaire. On va dire, ce n'est pas cela qui a fait qu'on a décidé d'aller au Maroc en premier. On aurait eu des opportunités de travail, de coopération pour l'agglomération, pour les entreprises de l'agglomération dans un autre pays. Bien évidemment, on aurait commencé par un autre pays. Évidemment, le fait que je sois marocain, que j'ai un réseau sur place, que je connaisse beaucoup de monde, que j'ai déjà travaillé en tant que conseiller pour développer des relations avec le Maroc auprès de la région, tout cela, ce sont des atouts et des facteurs facilitateurs qui peuvent bénéficier, bien sûr, à ma ville, à mon agglomération et à ce territoire que je souhaite développer à l'international. Oui.
Concrètement, que s'est-il passé ?
Nos partenaires appartiennent à la région. Le Maroc a connu aussi la réforme des régions et la très grande région de Rabat-Kenitra est aujourd'hui en première ligne parce qu'elle va pouvoir s'installer dans une de ces villes, donc Kenitra, la nouvelle usine Peugeot-Citroën. C'est une opportunité pour les entreprises marocaines, mais aussi pour nous, les entreprises françaises, qui pouvons nous adosser à ce projet pour pouvoir essayer de développer un courant d'affaires. Évidemment, le pôle mécanique aussi est un modèle qui intéresse les Marocains, parce qu'ils souhaiteraient pourquoi pas en implanter un chez eux. Il va falloir qu'on les aide dans l'ingénierie, dans la méthode et dans la gouvernance de ce pôle. Tout un tas de projets, par exemple la société Capel, qui est venue avec nous, a des projets de centre de formation qu'elle souhaite développer. Elle a elle-même une expertise réelle dans le convoi exceptionnel qu'elle voudrait transférer à ses partenaires marocains. Plusieurs entreprises qui étaient avec nous ont trouvé matière donc autour évidemment de l'automobile, de la mécanique, du véhicule électrique, de l'écomobilité. En fait, ce sont les thématiques que nous avons choisies. Les agglomérations doivent se spécialiser dans son export, on va dire cela. Et le thème qu'on a choisi, c'est l'écomobilité, le développement durable. Et donc forcément, ça c'est en ligne avec les problématiques de la COP.
Propos recueillis par Yves Defago de Radio Grille Ouverte. Cévennes Écotourisme, association basée à Florac en Lozère, a l'ambition d'essaimer l'idée d'un tourisme écologiquement responsable sur l'ensemble de la région. Maël Binot, chargé de mission, présente les derniers projets de l'association au micro de Radio Bartas.
Je vais vous parler du cluster qui est en cours au niveau de l'association Cévennes Écotourisme, qui est un projet qu'on mène aujourd'hui au niveau du territoire du parc national des Cévennes, mais qui a pour vocation à être essaimé sur l'ensemble du territoire du Massif central, qui est d'ailleurs financé par le Massif central, le GIP, le CGET, la région et le parc national des Cévennes. Ce cluster s'inscrit dans un désir, on va dire, d'innovation. Aujourd'hui, après 15 ans de mise en écotourisme du territoire du parc national des Cévennes par l'association Cévennes Écotourisme, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir les clientèles de demain ? Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre un peu plus en lien avec tous les acteurs socio-économiques de notre territoire ? On a réfléchi à ce cluster, on l'a présenté sous trois axes différents. Le premier axe des éco-voisins part d'une volonté de certains adhérents de l'association Cévennes Écotourisme et donc acteurs touristiques de se fédérer en réseau afin d'offrir un vrai maillage écotouristique à l'échelle d'un territoire réduit, à savoir à l'échelle d'une vallée. Les adhérents qui sont à la base de ce projet ont eu envie, il y a quelques années de ça, d'apprendre à se connaître mieux afin de permettre un renvoi de clientèle. Ce projet a mûri, il a abouti. Donc on a une première vallée écotouristique, les éco-voisins de la vallée de Valrhog. Donc on a des très très bons retours au niveau institutionnel sur ce projet. C'est quelque chose qui est vraiment en train de partir en flèche. Et on voit déjà émerger une autre vallée écotouristique au niveau du Mont-Lozère et certainement très très prochainement une troisième vallée écotouristique au niveau des vallées Cévenoles. Le deuxième axe de ce cluster, c'est donc l'accueil écotouristique dans sa grande largeur. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre ? Et surtout, qu'est-ce qu'on n'a surtout pas envie de faire ? On a donc pu bénéficier de l'analyse d'une quarantaine d'étudiants qui sont en Master 1 de tourisme durable et développement des territoires à l'Université Paul Valéry en Antenne de Béziers, qui nous ont présenté la restitution d'une étude qu'ils ont menée alors qu'il s'est étalé sur 3 mois, dont 4 jours d'atelier terrain. La grande conclusion de cette étude sur la définition de l'accueil écotouristique, c'est comment est-ce qu'on continue à préserver notre territoire tout en favorisant une attractivité touristique qui, il faut bien le dire, développe l'économie sur notre région. C'est un beau début de travail et ça va certainement se prolonger par la mise en place d'une plateforme qui va vraiment permettre à un visiteur qui a des attentes bien définies en matière d'écotourisme de venir trouver exactement ce qu'il cherche personnellement ici, chez nous, en Cévennes. Le troisième axe de ce cluster de l'écotourisme, c'est donc un nom encore un peu barbare, HLL éco-conçu. Par HLL, on entend habitation légère de loisirs, ou plus communément connu sous le terme de mobilhome. Le réseau de Cévennes Écotourisme compte quelques campings qui ont exprimé le besoin de trouver une alternative aux mobilhomes classiques qu'on voit un peu partout, qui sont en général pas très beaux, qui sont en termes d'isolation une aberration, inchauffable l'hiver, trop chaud l'été, et qui sont également une aberration en termes d'écologie, puisqu'au niveau du recyclage, les filières sont quasiment inexistantes. L'idée de ce HLL éco-conçu, c'est forcément qu'il soit en lien étroit avec la climatologie et la géographie du territoire des Cévennes, qu'il soit issu d'une filière bois locale. Et comme pour l'ensemble des trois actions du cluster, tout a vocation à être ensuite transféré aux différents territoires du Massif central, et notamment les 9 parcs naturels du Massif central. Donc, à nous, une fois qu'on aura poussé un petit peu la réflexion sur ce que nous, on recherche ici en Cévennes, à nous de construire des cahiers des charges qui vont s'adapter à la climatologie et à la géographie des autres territoires du Massif central.
C'était un sujet de Radio Bartas. La 31e comédie du livre à Montpellier aura lieu cette année du 27 au 29 mai. Les organisateurs ont récemment dévoilé le thème et les grandes lignes du programme de cette édition. On fait le point avec Gilles Geoffrey.
Après la littérature maghrébine, puis nordique et ibérique, c'est au tour de l'Italie d'être mise à l'honneur par la comédie du livre. 35 auteurs italiens seront présents à la rencontre de leurs lecteurs. Le choix du pays qui fait la thématique de l'événement est traditionnellement laissé au maire. Le maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui n'a pas laissé cette décision au hasard. C'est ce qu'il explique au micro d'Élodie Chazé.
Je trouve que l'Italie est un peu absente à Montpellier depuis de nombreuses années. La Grèce est très présente. Mais on a besoin de l'Italie parce que c'est une grande culture qui a traversé le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et la métropole de Montpellier. Et la mettre en exergue, en valeur, c'est une bonne chose. Cette année, nous revenons sur le bassin méditerranéen, là où se trouve la grande culture de la métropole de Montpellier, Montpellier-Méditerranée-Métropole. Et à cette occasion, nous allons signer le jumelage avec la métropole de Palerme et son maire, Léo Luca Orlando. Et nous recevrons effectivement la Squadra Azzurra qui viendra s'entraîner à Montpellier et qui très certainement aura l'une de ses succursales, j'en dis pas plus aujourd'hui, dans le centre-ville. Ce qui va être une grande activité autour de l'équipe de foot italienne qui a une renommée mondiale.
Des relations renforcées donc entre Montpellier et l'Italie avec un jumelage, la venue de la Squadra Azzurra, mais surtout avec cette comédie du livre. Nous le disions, 35 auteurs italiens sont invités, parmi eux de grandes plumes comme Claudio Magris et Eri De Luca. Particularité aussi de cette 31e édition, ces auteurs sont rémunérés, ce qui n'est pas sans quelques conséquences sur le budget global, comme nous l'explique Nicole Lisa, conseillère municipale de Montpellier et organisatrice de l'événement.
Oui, il y a une nouveauté en ce sens que ville et métropole collaborent, mais surtout en ce sens que nous avons un point de dépense supplémentaire avec la rémunération des auteurs. Dans cette perspective, abonder notre budget, nous allons être aux alentours de 600 000 euros. C'est dire l'effort que consentent métropole et ville pour que justement cet espace, j'y insiste, cet espace que nous offrons, cet espace de rencontre entre les personnes à travers la littérature pour parler de notre héritage commun qui est plus important que nos luttes est fondamental.
Nicole Lisa répondait à Élodie Chazet. La comédie du livre, ce sera donc du 27 au 29 mai. Avant cela, comme l'année dernière, les médiathèques de la métropole accueilleront les préfaces de la comédie du livre, des événements culturels autour de l'Italie dont le départ sera donné le 22 mars prochain.
C'était un sujet de Gilles Geoffrey et Élodie Chazet de Radio Aviva. C'est la fin de ce carnet de région. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toutes les radios qui ont participé à son élaboration. On se retrouve la semaine prochaine.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.